Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 18 décembre 1991.
Nous étions restés à ce lien entre l'adoration et l'appel vers la contemplation en éthique religieuse. L'éthique religieuse ne peut pas s'achever à l'adoration. L'adoration est son fondement, c'est vrai. Mais l'adoration n'est pas et ne peut pas être le terme de l'éthique religieuse. C'est une certaine finalité, c'est ça qui serait très intéressant à étudier. C'est une certaine finalité et ce n'est pas la finalité absolue de l'éthique religieuse. C'est une certaine finalité parce que c'est grâce à l'adoration et dans l'adoration que nous découvrons notre état de créature spirituelle qui n'est vrai qu'en adorant. L'adoration me donne cette manière d'être vrai. Je reconnais que je suis dans une dépendance radicale à l'égard de Dieu, une dépendance amoureuse, et non pas une dépendance qui m'aliène. Dépendance amoureuse, parce que c'est une dépendance amoureuse, ça me finalise bien. C'est un acte d'amour. Tout acte d'amour porte en soi une certaine finalité. C'est un bien que j'atteins. Dieu est mon bien, puisqu'il est mon créateur et qu'il m'a créé dans l'amour. Donc c'est mon bien. C'est une certaine finalité. Mais ce n'est pas ce qui achève. Pourquoi? Parce que ce bien que j'adore, cette personne qui est mon créateur, qui est mon Dieu, et que je reconnais comme mon Dieu, c'est mon bien, c'est ma source. Quand j'adore, je reconnais tous ses droits sur moi. Et je n'ai pas peur de me remettre entre ses mains. Parce que je sais que l'amour qu'il a pour moi est plus grand que l'amour que j'ai pour moi. Qu'il m'aime plus que je ne m'aime. Et parce qu'il m'aime plus que je m'aime, je peux me remettre entièrement entre ses mains. C'est du reste pour ça qu'une des conséquences de l'adoration sera cette attitude d'abandon, de remise entre ses mains. Nous y reviendrons là-dessus. Parce que ça, c'est tous les stoïciens qui ont vraiment développé ce point de vue de la providence, au point de vue philosophique. Et que nous devons développer au point de vue philosophique. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la providence? Pour un homme religieux, pas pour un chrétien, pour un homme religieux. Et alors, remarquez bien, dites-vous bien que ce que nous disons ici demeure en terre chrétienne. Si vous êtes vraiment chrétien, vous êtes un homme religieux. Et donc, tout ce que nous disons maintenant doit être vécu. Ne dites pas, c'est dépassé, c'est faux. C'est comme si vous disiez que l'intelligence métaphysique est dépassée à cause de la foi. Elle est dépassée, mais elle demeure. Autrement, vous tombez dans le fidéisme. Et il y a un fidéisme pratique. Mais c'est l'attitude de ceux qui ne veulent pas réfléchir parce qu'ils sont croyants. Comme si la foi supprimait la réflexion philosophique. Ça, c'est important parce qu'on vit avec des quantités de chrétiens qui sont fidéistes, enfin, pratiquement. Et c'est ce qui explique comment. comment, si facilement, au fond, leur foi tombe. Parce que ils n'acceptent pas l'enracinement humain. La grève est enracinée dans le tronc. Si la grève est enracinée dans le tronc, vous supprimez le tronc. Alors, Dieu peut le faire passer par des épreuves qui fait que il y a un brouillard tel qu'on ne voit plus du tout l'utilité du tronc. Et on a l'impression que la grâce suffit à tout. La grâce suffit à tout. Ma grâce te suffit, c'est dit. Mais il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire que la grâce annihile la nature humaine. Oui. Comme dirait Sartre. Si Sartre faisait une éthique chrétienne, il dirait ça. Pour que la grâce apparaisse et vive, pour annihiler la nature humaine. Oui, ce serait comprendre matériellement ce que Jésus dit. Il faut mourir pour me suivre. Alors, il faut comprendre que momentanément, Dieu peut nous faire passer par cette épreuve, qu'on a l'impression que toute philosophie pratique, ce que nous faisons maintenant, philosophie religieuse, ça ne signifie rien du tout. Tout à fait inutile. Mais ça peut exister, hein. Vous pouvez passer par cette épreuve. Et alors, le fait de faire une éthique religieuse, c'est très éprouvant. Parce que vous n'en voyez pas l'utilité. Alors on fait quelque chose de vain. Prenez, je ne fais pas de la dentelle avec vous pour le plaisir d'en faire, comme les vieilles bretonnes. Non, c'est pas du tout pour ça, pour maintenir, voyez, une vieille tradition, un peu un folklore. C'est pas pour ça. On fait ça parce que c'est indispensable pour nous. Et on ne peut pas être un véritable apôtre du Christ. Je dis bien, un véritable apôtre du Christ qui doit témoigner jusqu'au bout si on ne fait pas ça. Dans le monde d'aujourd'hui. Vatican II, ouverture au monde. Ouverture à la laïcité. Non pas en devenant des laïcs et en entrant dans la laïcité, mais en comprenant le mal de la laïcité. En comprenant comment la laïcité ampute l'homme. Or, vous ne comprendrez pas comment la laïcité ampute l'homme si vous ne faites pas d'éthique religieuse. Je dis ça, c'est pour vous. Vous remontrez l'importance, hein. Faut toujours rappeler ça. Parce que dès qu'on ne voit plus la finalité, ça devient vain. Et ce qui devient vain n'a aucun intérêt. Donc, comprendre que l'acte d'adoration est absolument nécessaire et demeure toujours. Le chrétien est celui qui adore plus que les autres et continue d'adorer. Et la substance de l'acte d'adoration reste la même qu'en éthique religieuse. Et la vertu de religion qu'on verra ensuite, qui s'acquiert à partir de l'adoration. L'adoration répétée fait que progressivement on acquiert l'habitus de la vertu de religion. Et la vertu de religion, substantiellement, demeure la même pour le chrétien que pour l'homme religieux. Il n'y a pas une nouvelle vertu. Il y a une vertu infuse qui présuppose la vertu acquise. Et la vertu infuse aide l'exercice et purifie l'exercice de la vertu de religion. Mais la spécification de la vertu de religion reste la même. Nous sommes des créatures. Et nous ne pouvons comprendre pratiquement et dans l'amour que nous sommes des créatures qu'en adorant. L'adoration me donne cette expérience de la créature comme créature, ce qui est indispensable aujourd'hui. chrétien ne peut rester chrétien, mais vraiment fondamentalement et radicalement, que si il a cette expérience qu'en face de Dieu, Créateur, il reconnaît qu'il n'est rien. Qu'il n'est rien, la création est ex nihilo. Ce qu'il y a de plus grand en moi vient directement de Dieu. Il ne s'appuie sur rien d'autre. Dieu ne s'appuie pas sur notre corps pour créer notre âme. Comme un artiste qui s'appuierait sur une matière préexistante. Dieu ne s'appuie pas sur notre âme pour, sur notre corps pour créer notre âme. Il ne l'induit pas de l'âme de corps. Notre âme est un don de Dieu, et tout à fait gratuite. Et ça, vous le vivez expérimentalement que par l'adoration. Que dans l'adoration. Et ça, c'est très grand. Il n'y a pas de mystique authentique sans ça. J'en ai rencontré des illuminés qui disaient « Je suis au-dessus de l'adoration. » Je dis « Ah, c'est suffisant, maintenant je sais ce que vous êtes. Je n'adore plus jamais. » Je dis « C'est triste. » Mais puisqu'on est copains avec Dieu, l'adoration c'est l'esclavage. C'est quand j'étais esclave que j'adorais. Mais maintenant, non, on est des amis. Alors on n'adore plus. Et oui, plus on est amis, plus on est serviteur. Et plus on est serviteur, plus on adore. Et ça, ça relève d'une expérience. Et pour que ce que nous voyons ne soit pas abstrait, ça relève d'une expérience. Nous avons l'expérience de l'acte d'adoration. Et l'expérience de l'acte d'adoration doit être le plus lucide possible. Si nous faisons l'éthique religieuse, c'est pour que cet acte soit dans une lucidité totale. Il peut l'être grâce à la métaphysique. Là, vous voyez comment la métaphysique est pratique. Parce que sans la métaphysique, votre acte d'adoration ne sera jamais totalement lucide. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ça vous donne cette lucidité que vous êtes. Alors, évidemment, ce n'est plus la métaphysique. C'est la conséquence pratique. Vous voyez ? Adorer n'est pas un acte métaphysique. C'est un acte d'homme et de créature. Vous voyez ? Et c'est un acte concret. C'est l'acte le plus concret de toute ma vie humaine. Le plus concret et le plus réaliste de toute ma vie humaine. Parce que il est au plus intime de ma volonté, de mon âme spirituelle, et il assume mon corps. Mon corps doit être matière d'adoration. Et mon corps est matière d'adoration. C'est pour ça que l'adoration demande de s'exprimer à l'extérieur. En toute rigueur, je peux dire que je ne peux pas adorer parfaitement en restant debout. Quand on dit ça aujourd'hui, ça fait bondir les gens. Ça va rien, il faut pouvoir le dire, il faut faire attention. Hein. Faut pas le crier à toutes les parce qu'alors vous allez dire, oh, vous êtes rétro. Pour adorer, vous êtes rétro, métaphysiquement. Pour revenir à la source. Pour revenir à la source. Et c'est un rétro qui me donne l'actualité la plus grande qui soit. Et c'est les autres qui planent. On ne peut pas adorer en restant debout. Mais c'est impossible. Ah, si on ne peut pas, si on vous donne un corset en fer, ou vous êtes dans une prison, où vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Le mur est là. Et on se met volontairement dans une prison idéologique en disant j'adore debout. Non, vous êtes au garde à vous debout. Mais l'adoration n'est pas le garde à vous en face de Dieu. C'est la différence. On n'est pas des militaires de Dieu. On est des petits enfants de Dieu. quand le militaire devient petit enfant. Quand il fait le garde à vous, c'est ennuyeux. Et vous avez vu les gens qui font le garde à vous, les soldats qui font le garde à vous, toute la nuit. Ils tapent du pied pour ne pas se dormir. C'est ça, ce qui montre bien qu'être debout, c'est très bien, mais... On peut contempler debout. Mais comme la contemplation va impliquer l'adoration, on sera debout et on se mettra en prostration. L'adoration demande la prostration. Parce que l'adoration réclame le corps qui reconnaît qu'il n'est rien en face de Dieu. J'ai admiré il n'y a pas longtemps à Gap une messe où tous ceux de Saint-Firmin venaient. Et c'était à Gap. Il y avait toute une bande de petits garçons et de petites filles à moitié chinoises et françaises. Sur le roc, puisque je touche la volonté du Créateur. Je la touche, voyez dans quel sens, hein? J'en ai pas l'expérience, mais je l'atteins. Et mon acte d'adoration s'appuie sur l'acte Créateur de Dieu actuel. Et cet acte d'adoration, cet acte Créateur de Dieu atteint par mon âme rouge, l'action de grâce, ne me donne pas du tout la même expérience. Seule l'adoration donne cette expérience. Là, il faut le découvrir, ça. Soi-même. Je peux vous mettre sur la piste, mais c'est vous qui devez le découvrir. Et vous découvrez à ce moment-là votre autonomie fondamentale. Dans les mains de Dieu. Si je suis dans les mains de Dieu, personne ne peut m'atteindre. Et quand j'adore, j'échappe à tout regard humain, à tout jugement humain. Je suis seul en face de Dieu. L'adoration m'éduque à la solitude. Et la solitude ne devient plus un isolement. Je dépasse ce point de vue de l'isolement. Parce que je suis en relation avec Dieu. S'il n'y a pas l'adoration, jamais la solitude ne sera quelque chose de positif. Tandis que grâce à l'adoration, la solitude devient quelque chose de positif. Je ne suis plus uniquement un agrégat, un élément qu'on assemble avec d'autres. Je découvre là mon autonomie fondamentale et réelle. Je découvre ce que c'est de subsister dans l'être. Je découvre cette solitude et ce silence. L'acte d'adoration me met en présence de l'acte créateur de Dieu sur moi, sur mon âme. Et cet acte de Dieu est silencieux. Et je peux à ce moment-là jouir du silence de Dieu. Mais quand je suis un peu agité à cause des événements, à cause de l'extérieur, à cause de certaines incompréhensions, à cause d'actes que je devrais poser, qui est difficile à poser, la seule chose qui peut m'apaiser, c'est l'adoration. Et ça m'apaise radicalement. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète ici. Si l'homme adorait plus, il y aurait moins d'angoisse dans le monde. Le signe que l'adoration n'est plus présent dans le monde, c'est cette angoisse généralisée. Et nous sommes tous pris par ça. Personne d'entre nous. C'est la peste moderne. C'est l'angoisse. On est tous atteints. Parce que ça se communique, hein, à travers un milieu, à travers n'importe quoi. Quand vous êtes à côté de quelqu'un d'angoissé, ça se gagne. La grippe. C'est un virus très particulier. C'est un virus fondamental, l'angoisse. Eh bien, c'est l'adoration qui peut seule me permettre d'en sortir. Parce que ça rend le terrain sain, ça assainit. C'est en ce sens-là que la vie monastique assainissait les terrains. Des vieilles paludiennes, ça assainit. Ça assainit ce premier terrain qui est mon corps, par où je suis en communion avec tous les autres. Le premier terrain à assainir, c'est mon corps. Après, j'essaierai d'assainir les autres. Il faut d'abord me massifier. Et si j'assainis le terrain par l'adoration. Évidemment, je n'adore pas pour cela. C'est la conséquence. J'adore pour glorifier Dieu et reconnaître que Dieu est tout. Cette purification radicale que fait l'adoration de mon intelligence pratique qui me met dans la vérité et qui me permet de comprendre que l'acte d'adoration est purement gratuit et que c'est un acte d'amour. Cet acte d'adoration va mettre dans mon intelligence pratique un désir de rejoindre le plus possible ce Dieu créateur qui réalise cet acte de création dans une contemplation. C'est parce que l'acte créateur est fruit d'une contemplation que l'adoration il me fait découvrir cet acte créateur de Dieu réclame en moi une recherche de vérité pour contempler. Et pour contempler celui qui est mon créateur. Une contemplation qui est très imparfaite, je le sais. Mais une contemplation qui élève mon âme spirituelle, mon intelligence, vers ce vers quoi elle est faite, ce pourquoi elle est faite, ce vers quoi elle tend de tout son être. Je ne vois pas maintenant ce que c'est que la contemplation religieuse, nous essaierons de le voir au terme. Mais il faut voir l'amorce que c'est naturel pour l'homme de contempler son Dieu. Et c'est très vrai que la contemplation naturelle est complètement dépassée dans la contemplation mystique. Mais là encore, il faut maintenir que la contemplation chrétienne ne gomme pas la contemplation naturelle, ne supprime pas la contemplation naturelle. Il y a une sagesse philosophique qui demeure. Et cette sagesse philosophique, elle est à l'intérieur de cette contemplation. Elle est dans cette contemplation. Et vous voyez pourquoi ? Parce que justement, l'acte créateur de Dieu provient de sa contemplation. Et la contemplation de la contemplation. Et donc, je ne remonte vraiment à la source que lorsque moi-même j'essaie de découvrir ce qu'est ce Dieu créateur, comment il existe. Et donc, je découvrirai la simplicité absolue du Créateur, la simplicité absolue de celui qui est. Vous voyez, cette démarche qui serait très intéressante à voir, ce passage de l'adoration à la simplicité que je contemple autant que je le peux. De l'adoration à la perfection, de l'adoration à la bonté. Ceci, c'est pour que vous compreniez le lien vital en vous de l'adoration à cette contemplation. Et que cette contemplation de l'être premier de Dieu, mon Créateur, n'est pas abstraite. Comme l'adoration, elle n'est pas abstraite. Mon intelligence contemplative est une intelligence aimante, comme mon intelligence pratique qui adore est aimante. Il faut progressivement dépasser ce que instinctivement, étant donné le milieu dans lequel je suis, qui considère l'adoration comme une aliénation ou une abstraction, qui considère cette contemplation de Dieu dans sa simplicité comme une abstraction. Il faut comprendre que c'est le réalisme spirituel de mon intelligence dans ce qu'il a de plus grand. Et ce réalisme spirituel n'est plus abstrait. c'est spirituel. Et le spirituel n'est pas toujours abstrait. Il est abstrait dans l'analyse métaphysique, ça c'est vrai. Mais il ne l'est plus dans la contemplation. Et c'est pour ça que c'est si important de comprendre que c'est l'adoration qui fonde cette contemplation de l'être premier, de Dieu, du Créateur. Nous y reviendrons là-dessus, parce que ça, je crois que c'est important pour nous de comprendre ça. Parce qu'on vit dans un monde où, de fait, tout me dira, c'est abstrait. Et je dis, non, ce n'est pas abstrait. C'est pas commode, hein, d'éveiller notre intelligence jusque-là. Ah, il faut que on se réveille. Parce qu'on est endormi dans le brouillard du climat dans lequel on est. Du climat de laïcité. Et ce climat de laïcité considère évidemment que la contemplation à l'égard de Dieu est abstraite. Et il n'y a pas que le brouillard de laïcité, il y a le brouillard de la scolastique décadente. Suarez, puisque l'être est une idée, nécessairement, contempler de Dieu, c'est contempler une idée. C'est pas Dieu, c'est une idée. Donc c'est abstrait. Alors, je voudrais terminer par un petit nota bene. Pour nous. Si vous regardez le traité de la vertu de religion dans saint Thomas, si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez-le. C'est un beau traité. Et puis, pendant le temps de Noël, c'est un très beau traité à voir, ça. Et c'est une manière d'aborder la théologie de saint Thomas. Quand vous regardez dans saint Thomas ce que c'est que la vertu de religion, vous voyez tout de suite d'abord que vous êtes en théologie. Je n'ai pas parlé de vertu de religion. On en reparlera vite. Parce que dès que je pose un acte d'adoration ou plusieurs actes d'adoration, j'acquiers la vertu de religion. J'acquiers la vertu de religion. Vous avez tous la vertu de religion, au moins en devenir, incoativement, au milieu de ce climat de laïcisation, vous apparaissez pour les anges comme des témoins d'un âge révolu. Parce que vous avez encore en vous la vertu de religion. Et vous faites tout pour que cette vertu de religion soit parfaitement acquise. Le noviciat vous remet dans cette exigence de la vertu de religion. Et toute votre vie après, c'est l'exigence de la vertu de religion qui m'a poussé. Alors, dans la mesure où on possède cette vertu de religion, on est pour le monde d'aujourd'hui des témoins d'un âge révolu. Retour à l'intégrisme. C'est ça. C'est pas si on creuse, on voit que c'est ça. Pratiquement, c'est ça. C'est un retour pratique à l'intégrisme humain. Au sens très fort. On veut comprendre que l'homme ne peut être une personne humaine parfaite que s'il a acquis la vertu de religion. Saint Thomas, dans sa somme, est un théologien. Dans la lumière de la foi, la vertu de religion existe. Et même on peut dire que dans la lumière de la foi, la première vertu morale qui est transformée par la foi, l'espérance et la charité, c'est la vertu morale. Pourquoi ? Parce que la vertu morale de religion, elle est au sommet. C'est là où elle se situe. C'est l'homme conditionner ma volonté. C'est-à-dire mon appétit spirituel. Et qui vient perfectionner cet appétit spirituel pour me permettre d'adorer plus facilement. Et c'est à partir de là que le don de Dieu au plan surnaturel va se faire par Jésus. La grâce chrétienne. La grâce chrétienne rencontre la nature humaine dans son sommet, dans sa capacité d'adorer. C'est pour ça que Jésus dit à la Samaritaine qu'il faut adorer en esprit, en vérité. Pour tout converti, la première chose qu'on doit leur dire, mettez-vous à genoux et priez et adorez. C'est la première chose que fait le converti. Tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient convertis brutalement par Dieu, Dieu les mettait à genoux. C'est un bon pédagogue, Dieu, vous savez. Il les mettait à genoux. Je vous ai déjà cité ce cas, cet étudiant, fils et petit-fils de marxiste, lui-même marxiste, venant à Paris pour acquérir une licence de géographie humaine, un soir, dans sa chambre, sa petite chambre de bonne, il se met à genoux. Et il adore. Et il ne savait pas ce que c'était. C'est très curieux, hein? C'est très significatif, je dirais. Ça. Et c'est par là que Dieu reprend tout. C'est par là que notre âme, impliquant la volonté et l'adoration, notre âme devient réceptive de la grâce, s'ouvre à la grâce. Elle adore. Alors, évidemment, quand nous avons reçu une éducation chrétienne, la première chose qu'on a fait, c'est d'adorer. On ne savait pas très bien ce qu'on faisait, mais on adorait quand même. Et puis petit à petit, on comprend que c'est par là que notre âme s'ouvre au mystère de Jésus. Puisque grâce à la grâce, tout est repris dans le Christ. Ce n'est plus seulement le sommet, c'est tout qui doit être pris. Et notre corps doit adorer. Saint Thomas, en théologien, étudie tout de suite la vertu de religion. Et il nous dit que l'acte premier de la vertu de religion, c'est le point de vue de la dévotion. L'acte premier, la dévotion. Et ce n'est qu'après qu'il voit l'adoration. Alors comment se fait-il qu'en philosophie, éthique religieuse, je mets une telle place à l'adoration? Alors, il faut comparer, c'est intéressant, ça aide à mieux comprendre. Saint Thomas analyse et essaie de chercher l'élément premier. La dévotion est à la vertu de religion ce que l'appréhension est au jugement. L'élément. Or, l'expérience est au niveau du jugement, l'expérience est au niveau de l'adoration. Vous voyez ? Et en philosophie, je regarde tout de suite mon expérience d'homme religieux et j'acquiers la vertu de religion par l'adoration et non pas par l'élément, la dévotion.